La lecture biblique ce matin se trouve dans l'épître de Jacques, au chapitre 1, les versets 1 à 8. Donc la lecture biblique, Jacques, au chapitre 1, les versets 1 à 8. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, salue les 12 tribus dispersées du peuple de Dieu. Mes frères, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. Car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance, mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez plein de force des hommes auxquels il ne manque rien. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la lui donnera, car il donne à tous généreusement et sans faire de reproche. Il faut cependant qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer agitées et soulevées par le vent, qu'un tel homme ne s'imagine pas d'obtenir quoi que ce soit du Seigneur. Son cœur est partagé, il est inconstant dans toutes ses entreprises. L'immaturité crée des problèmes dans les familles, dans les foyers, dans les entreprises. Trouver des personnes affermies à qui on va donner sa confiance, un métier, investissement d'énergie, de travail et capital. Où trouver et comment s'affermir dans la vie. La volonté de Dieu est que chacun de nous grandisse, en début donc de l'Église, et d'aider tout le monde à se développer spirituellement, émotionnellement, pour être équilibré dans sa vie chrétienne et dans notre vie. Ce matin, quatre choses, ce que n'est pas la maturité et ce qu'est la maturité, de deux, trois faits concernant tes problèmes. Dieu utilise tes problèmes et de quatre, comment gérer ces problèmes. Alors, ce qu'est d'abord, ce qui n'est pas la maturité. Est-ce la maturité l'âge? On aurait bien voulu qu'avec l'âge vient aussi la maturité, la croissance. Mais ce n'est pas toujours le cas. On peut avoir ses 50 ans et rester quelque part aussi dans son esprit enfant ou pas encore d'une statue d'adulte. La maturité, est-ce une apparence spirituelle? Pas forcément, c'est différent encore. Ce n'est pas simplement d'être digne ou un saint. Est-ce la maturité de faire beaucoup de choses? De produire, de faire? Pas forcément non plus. On peut faire encore beaucoup de choses et rester encore immature. La maturité, est-ce donc d'être archi-diplômé, bac plus 7 ou 8, etc. Non plus. Alors, la maturité, c'est surtout au sujet de ton attitude, qui on est, comment on se comporte dans des situations qui permettent qu'on soit qui on est vraiment, qui enlève et qui permettent de montrer comment on est. Alors, ce n'est pas ce que disent les autres, mais ce que Dieu dit. Alors, dans l'épître de Jacques, cinq fois, en cinq chapitres, il utilise le mot teleos, mature, complet. Et j'aimerais donc voir avec vous pour que nos vies tendent vers la maturité de Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est pour regarder un premier élément, et ça c'est simplement, qui est-on sous la pression et dans les problèmes? Alors, si vous avez jamais eu un problème, bon, non, on ne va pas vous demander de lever la main, mais donc, la vie est faite de problèmes. Le christianisme n'est pas une religion, mais une vie. Jésus a dit, je suis venu pour vous apporter la vie. Et si vous marchez avec Jésus, vous aurez des problèmes, mais il vous guidera, dirigera et aidera à gérer ces problèmes. Alors, face aux épreuves, comment réponds-tu, comment réagis-tu? Quelqu'un de nature joyeuse, légère, facile, ou est-ce que ça te démonte, te rend nerveux? Jacques était le frère de Jésus-Christ. Grandir dans l'ombre du grand frère parfait aurait créé, j'imagine, quelques problèmes pour Jacques. Mais Jacques, lors du vivant de Jésus, ne reconnaissait pas Jésus comme Seigneur. Il est allé même le chercher pour le ramener à la maison parce que il disait des choses qui étaient vraiment pas de ce monde, pas bien reçues, pas bien vues par la famille, par ses frères. Mais lors de la résurrection de Jésus, nous voyons qu'il est apparu à Jacques. Et Jacques l'appelle dans le verset 1, Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, salue les 12 tribus. Un frère qui appelle l'autre Seigneur. Il n'y a qu'une seule raison, c'est qu'il a vu le Christ, son frère, ressuscité. Parce que lors de son vivant, il a traité de quelqu'un qui était dérapé, qui n'était pas bien. Jacques écrit vers l'an 48, une bonne dizaine d'années après la première persécution de l'Église. Il est maintenant pasteur à l'Église de Jérusalem. L'Église qui grandit, l'Église qui a 5000 personnes, l'Église où c'est chaud. On vient de tuer Jacques l'apôtre, les autres sont dispersés, on a 5000 personnes et des questions à gérer, des problèmes de chaque jour, mais en dehors aussi la question, qu'est-ce qu'on fait avec les autres personnes, les autres peuples qui ne sont pas d'origine juive? Et donc, cette personne a dû savoir confronter et régler des problèmes. Il y en avait. Et il se lance tout de suite en disant, en parlant de ce livre pratique, qu'une personne donc mature, une personne qui est affirmée dans sa foi, est quelqu'un qui, face aux problèmes, ne se laisse pas démonter, dérouter, déboîter, mais qui tienne. Et qui a un certain aspect positif, équilibre. Trois faits à savoir. Jacques nous dit au verset 2 que les problèmes sont inévitables. Mes frères, quand, pas si, quand, si tu n'as pas un problème ce matin en arrivant, ça ne va pas tarder. C'est pas si tu as un problème, mais quand. Quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, Jésus a dit, dans ce monde, vous aurez de la tribulation. Les problèmes sont aussi imprévisibles. Quand vous passez par toutes sortes de problèmes, le mot en grec, c'est péripto, c'est de tomber dedans. On se promène, on marche, on n'a pas vu, schlac, on tombe. Et c'est parti pour un tour. Mais si on avait prévu,
Si on savait que le problème allait m'arriver, peut-être qu'on serait parti par un autre chemin, on aurait contourné et on aurait loupé, pas le problème, mais l'occasion pour que Dieu bâtisse, construise et tourne des situations à ton avantage. Et de trois, les problèmes sont infinis et variés. On ne va pas s'ennuyer avec. Ça ne vient pas toujours de la même manière, temps, taille, forme, intensité. Les circonstances ne sont pas déterminantes. Des problèmes, il y en aura. Ce n'est pas ça qui détermine la vie. Ce qui détermine la vie, c'est comment on répond à ces problèmes. Et dans le verset 3, il dit, fin verset 2, « Quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. » Alors, on va essayer de...
Le coût évalué par le BIT du stress au travail, alors ça prouve tout ça, c'est pas simplement les cadres, mais les cadres sont quand même bien situés là-dedans, c'est 4 à 5% du produit intérieur brut. Si on fait le calcul sur la France, c'est 50 milliards d'euros par an.
Ce qui nous préoccupe, c'est le stress qui dure dans le temps, parce que là, on sait que si ça dure trop longtemps, il y a des maladies cardiovasculaires, donc... des infarctus, des accidents vasculaires cérébraux, il y a des troubles musculo-squelettiques,
des crises d'anxiété, de la rage, de la colère, prendre des tranquillisants, des somnifères, enfin il y a toute une panoplie de symptômes qui permettent d'alerter, de dire là ça va plus.
Donc les problèmes au travail, du voisinage, de famille, en tout cas de santé, la liste est sans fin. Considérez-vous comme heureux en faisant trois choses. En sachant trois choses au verset 3, car vous savez. Alors, ces trois choses. Premièrement, est que le problème ou les problèmes éprouvent ta foi. Une foi mise à l'épreuve devient une foi approuvée. Une foi, c'est l'ensemble de ce que tu crois, de ton attitude, de ta réaction, de comment tu es au fond. Et quand c'est mis à l'épreuve, et ça tient bon, et que tu as cette confiance, tu as cette assurance que ta vie, quoi qu'il t'arrive, est d'entre de bonnes mains, ça, c'est une foi approuvée. C'est une foi qui est sûre. Certaine est bonne, qui n'est pas désapprouvée ou non testée. Quand j'étais en Afrique, on roulait dans une vieille 504 break qu'on avait fait traverser le Sahara, qui roulait encore. Et le maître cylindre qui a lâché a dû être réparé par notre mécano là où on était. Alors il sort. Sur une bande de caoutchouc, il fait quelques tours autour du maître cylindre. Il me dit, c'est bon, tu peux partir avec. Alors, je monte, j'arrive, je vais à l'école, j'enseigne. Et au retour, la barricade de la police avec leurs armes, la pédale flouc, va tout au fond. Et moi, je continue et la barricade a volé en deux. Il me dit, encore du caoutchouc, il répare, me donne les clés, je repars avec. Les étudiants allaient se marier, j'arrive dans la break. J'arrive alors devant le hutte, encore pas de pédale, ça va, la voiture entre dans la maison. Lors de la cérémonie du mariage, j'ai dû m'expliquer un peu gentiment, c'est la prof quand même qui ne voulait pas en vouloir à ses étudiants, mais le frein qui ne marchait pas. Une vie qui n'est pas testée, une foi qui n'est pas mise à l'épreuve et qui n'est pas sûre ou certaine, peut vous conduire à des situations encore plus dangereuses, plus délicates. Mais heureux la personne qui sait que ce qu'elle croit, ce sur quoi elle se base, a été mise à l'épreuve, testée, et que ça roule. Et qu'elle est fiable. Et qu'elle est bonne. Heureux est cette personne. Par contre, on peut se dire donc, une fois éprouvé. De deux, pourquoi on peut être heureux? Parce qu'on sait quelque chose. On sait par la parole, on sait par son vécu, on sait par ce que d'autres personnes parlent, témoignent de ce qu'est cette vie avec Jésus-Christ. Vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit, fait quelque chose. Quel Dieu nous avons! Que du cendre faire renaître des arbres, des fleurs, des vies. Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit quelque chose. Dieu est à l'œuvre dans ta vie. Il produit de l'endurance, de la persévérance. C'est différent que de la patience. Quand j'étais en Californie pour les études, et j'ai eu l'occasion d'y revenir avec Véronique une fois, et il y a de grosses vagues dans le Pacifique qui sont plus grandes que d'autres et qui peuvent déstabiliser et peut-être pas trop faire du mal si on s'y connaît, mais qui peuvent au moins surprendre. Donc, il suffit de bien mettre les pieds sur le sable, sur le sol, et on attend. Ou on s'approche de la vague pour que, quand ça tombe, ça ne pousse pas, ça ne vous écrase pas, ça ne fait pas de mal, ça passe, ça roule et ça continue. Et donc, le secret de passer par les vagues, c'est d'entrer. Poser les pieds. On attend. Mais il faut poser les pieds. Pour que quand ça vient, on reste debout. Si on demeure en Christ, le mot ici, c'est demeurer sous. C'est hypomeno dans le grec. Meno, c'est demeurer. On demeure dans le Christ et voici la vague. Ça va venir. Le problème, les choses sont là et vous avez de deux pieds dans votre foi plantés fermement sur Jésus-Christ. Sa parole, votre temps avec lui, votre expérience avec lui, et la chose vient, et la chose arrive, et la chose passe. Si vous demeurez dans le Christ, sous les problèmes, vous persévérez littéralement. Le problème donc produit la persévérance. Ça produit une capacité de résister, de ne pas se laisser emporter, mais d'être au contraire avec le Christ. Et que c'est là, dans cette situation, vous n'allez plus faire du repassage ou regarder la télé. Ou il y a un peu trop de situations, on n'a pas vraiment la tête. On pose ses pieds et on attend et on s'attache au Christ. Et c'est là où le Christ agit. C'est là où il se révèle. Il vous fortifie parce que vous vous mettez à l'abri quelque part en lui, où qu'il soit, quelle que soit la situation, quel que soit le temps ou le moment, la situation, c'est le Christ qui est votre refuge. Et vous demeurez dans le Christ, sous le problème qui se défoule sur vous, sur toi. Et là, avec le Christ, il te parle. Il fait quelque chose qui est nécessaire et important. Et tu vas découvrir que quelque chose le concernant, où il va te parler, où il va te fortifier, où il va t'aider, où il va t'émonder, pour te permettre que ta vie soit donc plus mûre, plus prête, plus apte à sortir et de faire quelque chose. C'est une étape préalable de préparation pour passer à autre chose. Mais qui donc nécessaire et utile. Et donc qui produit une certaine stabilité. La qualité de demeurer dans le Christ, de puiser force et grâce et amour et joie de Jésus. Isaïe avait dit ainsi, quand tu passes, pas si. Isaïe 43, le verset 2 et 3, quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, il ne te fera pas de mal, tu ne seras pas brûlé. Puisque moi, l'Éternel, je suis ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Et quelque chose de plus précieux que tout simplement d'être en repos, à l'aise, va arriver à ta vie. Il construit en toi une persévérance qui va amener un troisième produit, un caractère approuvé. Si au départ il dit, afin que ta foi soit parfaite et complète, maintenant il dit, afin que toi, c'est toi son projet éternel où il bâtit, il construit. Afin que toi, tu sois complète. C'est encore le mot teleos. Jésus sur la croix a dit tetelestai. C'est accompli. Il a achevé. Jésus veut que tu aies cette persévérance, pas simplement pour démarrer avec lui, pour t'engager avec lui, mais pour faire et courir la distance. Pour qu'il bâtisse, il se révèle à toi. Il te donne ses secrets de sa grâce, de son amour, de sa force, de son courage, de sa bonté en toi, autour de toi, et que tu t'accroches à lui, pas à des choses que les vagues de ce monde, les problèmes de ce monde vont t'emporter. Ce sont inutiles ces choses. Ça passe, ça ne reste pas. Mais lui, il reste et ta foi reste et toi, il veut que tu restes, que tu sois parfait. complet, par achevé, et que tu termines la course, courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Hébreux 12, verset 1. Et complet, le même verset, afin qu'on soit parfait, adulte, et plein de force ou complet. Le mot complet est rattaché au mot héritage. Et nous sommes le peuple, l'héritier de Dieu. Il veut que tu sois complet, préparé. Pour le ciel, pour l'éternité, pour que quand tu rentres et tu reçois cette récompense de ce qui t'offre, que toi, à ton tour, que cet amour et cette relation soient complètes. Comment savoir donc si on est arrivé? Comment savoir si on est complet, si on est à l'âge adulte, à cette stature de maturité? Quand sera ton problème, prochain problème? Comment y répondras-tu? Si on peut savoir ces choses, que ces choses ne sont pas là pour vous te démonter, mais pour donner à Christ l'occasion inouïe, incomparable, d'agir dans ta vie, parce que c'est lui qui doit le faire, c'est lui qui doit agir, c'est lui qui doit façonner, et que toi, tu ne te plains pas. T'extirpe pas, fouille pas, mais que tu plantes les pieds sur Jésus en disant: je sais que tu as quelque chose pour moi, je ne sais pas ce qu'il sait, c'est désagréable la situation, mais je ne perds ni pied ni courage. Je garde la joie. Donc les épreuves peuvent nous briser pour nous reformer, pour nous façonner, pour ressembler à Jésus-même. Dieu qui a ce projet de te façonner à l'image de son Fils, pour que tu sois son héritage complet, à l'âge et l'image de Jésus, il va t'envoyer les épreuves auxquelles a fait face Jésus et auxquelles Jésus dans ta vie fera face avec toi. Je ne sais pas. Tout allait très bien jusqu'à ce que je commençais à suivre Jésus. C'était facile, ma vie, et puis ça m'arrive. Hein? Dieu, il n'est pas là. Il ne m'aime pas, on peut raisonner. Si Dieu veut t'enseigner l'amour et d'aimer, il te mettra avec des gens difficiles. S'il veut t'aimer, te montre, t'enseigner la joie, il t'enverra la tragédie, la détresse,